30 minutes chrono, l'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono. Alors nous abordons notre 35e 30 minutes chrono de la saison. Un petit sommaire. La chronique que je titule de la babale carrée s'attardera sur l'événement planétaire en cours. Nous parlerons surtout du pays hôte, de la religion football, bien secouée par la dure réalité économique dans un pays qui ressemble à notre monde, avec des riches de plus en plus riches et des pauvres qui ont du mal à devenir encore plus pauvres qu'ils ne sont. Samba, bossa nova, stade pharaonique, FIFA sont au programme de notre traditionnelle chronique à vos sifflets. L'invité, j'ai deux invités, alors bonsoir.
Bonsoir.
Alors 30 minutes chrono, a le plaisir de recevoir pour invité Sylvia Colas, je prononce bien ?
Oui, très bien.
Sylvia Colas et Sevan Bouskara. Et là, je ne me suis pas trompé non plus c'est dans la prononciation, pas, c'est ça. Alors pour nos auditeurs, sachez que Sylvia est originaire de Bulgarie.
Oui.
Voilà. Quant à vous, vous êtes
français.
Français, ouais. Voilà, hein, tout à fait français. Alors, ils sont maîtres ou en passe de l'être. Leur sport se dit un jeu qui consiste à protéger un roi presque impotent avec une armée emmenée par une reine bien plus vive. Le couple royal est entouré de deux fous qui ne jurent que par des diagonales, d'une cavalerie réduite elle aussi à deux chevaux, se déplaçant étrangement. Le roi possède pour château deux uniques tours. Et devant cette ligne, on trouve les simples soldats, qui, comme dans toutes les armées du monde, sont considérés comme des pions. La guerre se fait avec deux camps identiques, sauf pour la couleur. Ce sera noir ou blanc. Alors merci à Sylvia et à Sevan de nous rendre visite pour l'échec club de Montpellier, dont le président Hervé Louche nous avait déjà rendu visite en janvier. On va parler avec ces personnes, évidemment, de leur sport, puisque les échecs sont aussi un sport que peu de personnes ne savent. Ça. Enfin, pour conclure, on fera un rapide survol de quelques résultats, échéances, informations sur nos sportifs de l'agglomération, et nous demanderons à nos invités leur programme. Alors, vous avez écouté Flavia Coelho dans une chanson qui s'appelle Amor et football. Alors, si ce n'est pas brésilien, ça. Hein. Bon. Alors, on va laisser tout d'abord à Néné, un ancien parisien dans la tradition des joueurs qui ont foulé la pelouse du Parc des Princes, comme Rai, et notamment Thiago Silva, le capitaine du Brésil actuellement, nous parler de son mondial à lui. C'était juste avant le coup d'envoi de jeudi dernier. Alors, tout le monde ne parle que du mondial au Brésil. Ça se voit ce que les gens ont hâte que ça commence. L'excitation est palpable. Durant les matchs de préparation, les stades étaient même pleins. Dans les rues, les centres commerciaux, il y a beaucoup de maillots, ce qui est normal. Devant les maisons ou dans les voitures, on voit aussi beaucoup de drapeaux du Brésil. Les gens se demandent quand même où ils vont pouvoir regarder ces matchs. Moi, je serai au stade, bien sûr, mais je compte m'y rendre en voiture et j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes à cause des montants dépensés par la construction des tables, du stade, pardon, le double de ce qui était initialement prévu. Ben, les gens ne sont pas très, très contents. Alors, Néné, il espérait que le Brésil gagne le premier match de cette Coupe du Monde. Et bien, mené dès la 11e minute par la Croatie, le Brésil de Neymar s'est vu inverser la tendance pour l'emporter au terme d'un match, disons, intéressant, mais il a été bien aidé par un arbitre japonais qui lui a accordé un pénalty inexistant, refusant aussi un but tout à fait valable pour les Croates. Ah, monsieur l'arbitre nous a montré une fois de plus que l'expression « à la maison » veut dire quelque chose. Alors, cela suffira-t-il à calmer un peuple ? Qui compte 30% de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. À deux jours de l'ouverture de la Coupe du Monde, Dilma Rousseff, qui est la présidente de ce pays, a tenté de rassurer les Brésiliens lors d'une intervention télévisée après plusieurs mois de critiques virulentes à l'encontre de l'organisation de l'événement. Alors certaines personnes prétendent que les ressources de la Coupe auraient dû être investies dans la santé, dans l'éducation. J'écoute et je respecte ces opinions, mais je ne suis pas du tout d'accord, a expliqué la présidente. Nous faisons tout pour les Brésiliens, a-t-elle ajouté, assurant que les aéroports, les métros, les stades ne disparaîtront pas avec les touristes. La Coupe, ce n'est pas que pour un mois et les bénéfices resteront pour toujours. Pourtant, d'autres critiques viennent à l'encontre de cette organisation du mondial de façon plus nette. Les chantiers, ils n'ont pas été tout à fait finis en temps et voulu. Et je dirais que l'Arena Corinthians de São Paulo, là où la Coupe a commencé, donc jeudi dernier, eh bien, c'est l'exemple même du dérapage constaté. Les travaux ont quand même fait 3 morts. Les travaux d'ailleurs dont le budget a pratiquement doublé et on a dû les interrompre, ce qui explique que ce stade de la Coupe du Monde 2014 sera terminé en 2015. Bon. Pour conclure, avant de vous laisser avec l'orgie de matchs à venir et en espérant que vous ne prendrez quand même un peu de plaisir au spectacle, je laisse la parole à Mauricio Murada, un sociologue brésilien. Il pense que le climat est morne et sans passion, ce qui est un comble au pays du football roi. Il poursuit dans un article qui avait paru dans le journal L'Équipe daté du mercredi 11 juin que la population est dépitée face à toutes les promesses non tenues. L'espoir suscité par cette fête mondiale a tourné au dégoût. La surfacturation des travaux, les transports publics qui n'ont pas été améliorés et l'Arena Corinthians le symbolise à lui seul. C'est l'échec de l'organisation. Et ben voilà, et ben on n'a pas fini d'en parler parce qu'après en 2018, ben ça sera la Russie de Poutine et en 2022, le Qatar Gate.
Ils ont plein paradoxes à leur nom, une métaphore de renom. Tu peux m'épiler jusqu'au cul, je ne changerai pas de statut. Car c'est dans la tête qu'on est barbu, c'est dans la tête qu'on est barbu. C'est dans la tête qu'on est barbu, c'est dans la tête qu'on est barbu. La barbie pour certains. La liaison entre le corps du saint et les émanations de l'esprit, mais tout ça n'est que calomnie. Car c'est dans la tête qu'on est barbu, c'est dans la tête qu'on est barbu, c'est dans la tête qu'on est barbu, c'est dans la tête qu'on est barbu. Dans ma barbe à moi, y'a la boule à zéro de Bouddha, le menton rasé à Charlot et la moustache à Django. Car c'est dans la tête qu'on est barbu, c'est dans la tête qu'on est barbu, c'est dans la tête qu'on est barbu, c'est dans la tête qu'on est barbu. J'aurais tort de ne pas confesser qu'elle contient ce qu'il faut de saleté pour m'éloigner de cette emphase qu'est votre propreté sournoise. Même si c'est dans la tête qu'on est barbu, c'est dans la tête qu'on est barbu, c'est dans la tête qu'on est barbu, c'est dans la tête qu'on est barbu. Elle peut être hirsute, coquette, ministre, mendiant, prophète, marin pédé, éparse, touffu, mais couvert de poils ou tondu. C'est dans la tête qu'on est barbu, c'est dans la tête qu'on est barbu, c'est dans la tête qu'on est barbu, c'est dans la tête qu'on est barbu. Alors voyez nom de nom, c'est pas pas de conneries, ça mon con. Tu peux m'épiler jusqu'au cul, jamais je ne changerai de statut. Car c'est dans la tête qu'on est barbu, c'est dans la tête qu'on est barbu, c'est dans la tête qu'on est barbu, c'est dans la tête qu'on est barbu.
Eh ben voilà, alors c'est un choix d'un des invités, on en reparlera dans quelques instants. Alors on est dans le retour dans les studios de Divergence FM, nous sommes samedi, il est 19h30 et je reçois donc Sylvia Colla et Sevan Buscara, mais j'ai du mal à prononcer le mot Buscara.
Buscara, c'est ça.
Buscara, hein. Alors justement, c'est Sevan qui a choisi cette chanson, alors ouais. Comme elle est très originale, vous allez nous dire de qui il s'agit.
C'est une chanson de JPKM, qui est un artiste pas encore très connu, mais... qui, selon moi, va le devenir. Et donc, c'est un chanteur à texte.
Oui, on pourrait dire on a un peu de côté Bobby Lapointe, quelque part, un peu ce genre d'artiste avec beaucoup de subtilité dans les rimes, dans les mots. Ouais. Il joue avec les mots.
Bien sûr, ouais. Et il a énormément de... Il a pas mal de textes qui sont très sympas.
Il est originaire de la région? Non, vous ne savez pas?
Non, je ne pense pas. Bon. Pas de la région. Mais il a beaucoup de chansons qui sont très sympas et assez variées.
Voilà. Alors maintenant, on n'est pas là pour parler de musique. Mm-hmm. On est là quand même pour parler de votre jeu qui est aussi un sport. Alors comme je le disais en introduction, alors j'espère que vous avez apprécié ma petite introduction avec les rois, les reines, le roi un peu impotent. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
C'est un super résumé. Hein,
c'est ça, avec une reine super vive par contre qui est là pour les défendre. Donc on parle d'échecs. Alors vous allez vous présenter rapidement, si vous voulez, on va commencer par Sylvia. Alors Sylvia, vous êtes donc, on a dit, d'origine bulgare, vous jouez pour l'Échec Club de Montpellier.
Oui.
Et donc, vous êtes ce qu'on appelle maître, c'est ça?
Oui, je suis maître chez les hommes et je suis grand maître chez les femmes.
Grand maître chez les femmes et maître chez les hommes. Donc, vous avez un sacré niveau, comme on dit. Hein. Et l'équipe de Montpellier, elle joue dans quel championnat? Les équipes de Montpellier.
Donc, les équipes de Montpellier, ils sont dans l'élite de la France.
Le top 12, on dit, c'est ça hein?
Top 12, oui, chez les hommes et chez les femmes aussi.
Et donc, vous participez à la fois en mixte et en féminin, c'est
oui.
ça?
Oui, donc nous avons la chance, les femmes, de pouvoir jouer avec les hommes.
Ah ben voilà, un sport qui n'est pas discriminatoire. c'est au football, vous avez remarqué, ils jouent chacun leur tour. Hein. Faut mieux éviter que ça soit ensemble. Donc c'est en effet un sport qui peut tout à fait se pratiquer. Comme on disait avec votre président quand il était venu, ce qui est bien avec ce sport, c'est qu'on peut jouer tout petit, on peut jouer très âgé, on peut être homme, femme, grand, petit, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est un sport qui fait travailler les ménages, n'est-ce pas Simon? Mais pas que les ménages. Je crois qu'il faut être aussi un peu préparé physiquement, non?
Ouais, il faut être préparé physiquement parce que les parties durent très longtemps.
Oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut durer très longtemps une partie d'échecs. Hein.
En moyenne, on peut être amené à jouer des parties de 4-5 heures ou quelque chose comme ça. Du coup, c'est assez important d'être en bonne forme physique parce que pour rester à un niveau de concentration assez élevé, il vaut mieux être en bonne forme physique et donc être plutôt sportif.
Voilà, on disait aussi avec votre président que des fois, il y a des gens qui pratiquent un sport en plus des échecs pour pouvoir se maintenir en bonne condition. Et on a parlé beaucoup de sport de combat, parce que vous êtes un peu un sport de combat, non?
Oui.
Hein, vous êtes d'accord, Sylvia? C'est un peu un combat. Hein, c'est un peu un combat. Et puis, il y a une autre chose aussi qui est super avec ce jeu sport, c'est l'universalité de ce sport. Il n'y a pas besoin de parler la langue, vous êtes bulgare. Oui. Il n'y a pas besoin de parler la langue pour pouvoir affronter un russe ou un argentin. Ça, c'est super. Ça permet donc de tout de suite pouvoir communiquer, comme dans tous les sports d'ailleurs. Hein. On joue au basket, si on s'engueule des fois au basket, mais on est américain en principe. En Amérique. Voilà. Alors, vous êtes au top, vous aussi, alors c'est vrai, vous êtes dans l'équipe première de Montpellier.
De Montpellier, oui.
Alors, il faut quand même savoir, parce qu'on n'est pas à la télévision, vous avez quel âge, on peut le dire?
J'ai 22 ans.
22 ans, donc vous êtes un jeune joueur encore. Mm-hmm. Et donc, vous êtes en passe aussi d'obtenir ce titre de maître.
J'essaye de l'obtenir.
Alors comment ça se passe? Ça doit être compliqué ça, non? Il faut faire des parties contre d'autres maîtres, c'est ça, non?
Il faut faire trois performances au niveau de maître. Et à partir de ces trois performances, il faut atteindre un certain niveau, un certain classement. Mmh. Et là, on peut prétendre donc, au titre de maître.
Et dans l'équipe de Montpellier, je crois que vous avez un grand maître, c'est ça? Un grand maître international, non? Qui est un des leaders de l'équipe?
Ouais, on en a plusieurs en fait.
Ah oui, d'accord, d'accord. Et ce que j'avais parlé de ça aussi, je ne me rappelais plus de son nom, vous pouvez m'en citer un
Fabien Libizevski.
Voilà, c'est ça. C'est celui-là qu'on avait, on avait parlé de là. Et donc, vous, vous, vous jouez aussi ensemble. Ça vous arrivait de jouer ensemble contre l'un, l'un contre l'autre?
Oui, bien sûr.
Oui. De temps en temps, pour vous détendre un peu, quand vous avez marre de jouer contre les autres équipes.
Sylvain, on peut se jouer pour s'amuser, mais on s'est aussi joué deux fois en partie officielle, compétition.
Ah, en compétition, là, ça peut être quelque chose. Et vous, vous êtes originaire de Montpellier, c'est...
Ouais.
Alors, vous avez fait des études particulières ou ça n'a rien à voir
Je suis allé juste... Non, pas d'études en relation
avec les échecs,
non. Je suis allé jusqu'au bac, j'ai fait 2 ans de fac de droit.
D'accord.
Et voilà.
En fait, les joueurs d'échecs, contrairement à ce que pourraient croire les auditeurs, ça vient de tas de milieux différents. Hein.
Ouais.
Et, on a un peu cette vision hein, du joueur d'échecs, vous savez, l'intellectuel, etc., avec des petites lunettes qui se déplacent difficilement et qui ne communique pas. C'est pas ça, hein, les joueurs d'échecs.
Non, pas du tout, oui. Hein? Nous avons très mauvaises images par le cinéma avec les échecs. Donc, et comme vous l'avez dit, les échecs, c'est un jeu génial.
C'est un jeu tout à fait extraordinaire. Oui. Et puis, bon, c'est une espèce de guerre, comme je disais. Oui. C'est un jeu de stratégie, bien sûr, mais c'est aussi un jeu de bluff. Est-ce que des fois, on peut bluffer un peu aux échecs, comme on pourrait faire, vous savez, au poker? J'exagère, bien sûr. Hein. Mais est-ce qu'on ne peut pas attirer son adversaire vers une fausse route, par exemple?
Oui, bien sûr, on peut, ouais. Mais ça dépend à quel niveau on joue.
Voilà.
Par exemple, si je joue contre Sévan, je vais avoir du mal à le bluffer.
Ouais, je comprends très bien. Par contre, les jeunes joueurs, c'est très facile de les bluffer, je suppose.
Ouais, hein,
vous,
ouais.
Vous êtes aussi, alors c'est très important à savoir pour les auditeurs, vous n'êtes pas seulement joueur donc, du top 12 de Montpellier, mais vous êtes aussi entraîneur. Ça, c'est intéressant. Vous entraînez les plus jeunes.
On entraîne les jeunes du club de Montpellier, oui.
Qui sont, eux, dans un club qui est en national, je sais aussi.
Qui sont en Division 2.
Division 2 nationale.
Qui est un très bon niveau.
Oh, oh.
Et donc, oui, il y a plusieurs équipes de jeunes.
Hein. Et quel âge, à peu près, pour avoir une idée là, pour,
C'est entre 8 et 16 ans.
Ah oui, d'accord. C'est quand même des très jeunes, très très jeunes.
Ouais.
Et il y en a déjà, ces âges-là, qui arrivent à vraiment bien jouer, Sylvia, par exemple.
Oui, bien sûr.
Donc, l'âge n'attend pas... on n'attend pas l'âge pour jouer forcément bien. On peut très vite avoir un bon petit niveau.
Voilà, à partir du moment où on trouve l'enfant qui a les bonnes qualités de combat, qui a la volonté de gagner tout le temps, et ensuite, il suffit de le bien enseigner, le faire progresser.
C'est un sport qui demande beaucoup donc, de volonté, hein, ça, j'ai bien compris. Hein. Il faut être persévérant, il faut être tenace, il ne faut pas lâcher sa proie, comme on dit. Hein. Alors la proie, c'est le roi d'en face. Hein, c'est, en gros, c'est ça. Moi, vous savez, je suis un tout petit amateur d'échecs, mais je connais très, très peu le jeu. Mais enfin, bon, j'en ai pratiqué comme beaucoup. Beaucoup de gens jouent aux échecs, même s'ils n'ont pas le niveau, hein, juste pour s'amuser. Et c'est vrai que c'est toujours passionnant de faire une petite partie avec quelqu'un. Alors, évidemment, je ne jouerai pas avec vous, ça, j'en suis sûr. Peut-être avec mon technicien, là, en face. Non, pas à peu près. On pourrait peut-être arriver à peu près dans ce niveau-là. Bon, on va revenir à votre club. Alors, le club des échecs de Montpellier. Vous entraînez à quel endroit?
Au club d'échecs, donc, qui se situe à la Babote.
À la Babote, voyez.
La tour de la Babote.
La fameuse tour de la Babote. C'est joli.
Oui, c'est assez représentatif des échecs, pour le coup.
Ah oui, oui, là, c'est la tour.
Ah oui. Et donc on dispense des séances tout au long de la semaine. On peut donc c'est les jeunes les plus conquis au jeu d'échecs qui viennent dans le club, mais sinon on peut aussi aller dans les écoles. Et...
Voilà, vous faites aussi des fois vous sortez de votre club pour aller vers les jeunes, vers les écoles, les lycées, je ne sais pas. Sylvia, ça vous arrive déjà
Non.
Non, pas vraiment. Et vous avez déjà participé?
C'est pas moi qui m'occupe de ça, mais dans le club on le fait beaucoup.
Oui, voilà, dans le club vous faites ça. Hein. Sans ça, les horaires, c'est presque toute la semaine, hein, de mardi, jeudi, samedi, j'ai vu. Hein, donc ça, pour vous renseigner, le plus simple, vous tapez sur un moteur de recherche. Celui que vous voulez, parce que je ne fais pas publicité à la radio. Hein. Et puis vous tapez, puis vous trouvez Échec Club de Montpellier.
C'est ça.
Et là,
Club Montpellier.
Vous avez absolument tous les renseignements, tout ce que vous voulez pour vous aller plus loin. Alors, votre rôle d'entraîneur, c'est-à-dire que vous. Qu'est-ce que c'est exactement, d'après vous, en quelques mots? Je me tourne vers Sévan.
C'est d'apprendre les échecs à tout type d'enfants. Ça peut être de tout âge aussi. Hein. Ce n'est pas seulement les jeunes.
Oui, ce que je dis.
Il y a beaucoup d'adaptation dans le rôle d'entraîneur. Voilà. Si je devais détacher quelque chose, ça serait l'adaptation.
Oui, et puis on apprend aussi, je me tourne vers Sylvia, on apprend des fondamentaux aux échecs, des ouvertures,
Oui, tout.
En fait, c'est extrêmement structuré comme jeu. Hein. Donc, il y a l'ouverture, le milieu de partie et la fin de partie. Hein.
Et la finale.
Et le final. Et donc, tout ça, ça s'apprend dans des livres. Ça s'apprend aussi beaucoup, je suppose, maintenant en informatique.
Sur Internet, oui, beaucoup.
Alors, vous pouvez à la fois revoir des parties qui ont été faites célèbres ou jouer contre quelqu'un sur Internet.
Ouais.
Ça a dû changer un peu la vision aussi des échecs, parce qu'on peut rencontrer facilement des partenaires.
Les ordinateurs et Internet ont tout changé. Ouais.
Alors, il y a eu les fameuses premières victoires d'un ordinateur. Vous savez, on en avait fait toute une histoire sur un champion du monde d'échecs. C'était Kasparov.
Kasparov, je
crois. Mais enfin bon, le joueur reste quand même supérieur à la machine. Non, vous n'êtes plus sûr maintenant.
Et maintenant, non.
C'est tellement compliqué maintenant. Et il y a tellement de données. Alors, ils rendent des données mathématiques dans ces ordinateurs. Ce sont des monstres d'ordinateurs. Il faut quand même comprendre que là, on a affaire à des monstres d'ordinateurs. Et là, ils ont tellement toutes les parties en mémoire qu'ils trouvent toujours une parade.
Ils ont les meilleurs coups, ordinateurs.
Alors là, c'est une technique un peu déloyale, on va dire. Ces machines. Bon, enfin bon, les machines, ça suffit pas. Ce sont quand même les hommes qui font les parties. Hein.
Ouais.
Et puis le petit grain de folie aussi, peut-être, Sylvia, le moment où quelqu'un va trouver peut-être quelque chose qui n'avait pas encore forcément été trouvé.
Oui, c'est possible.
On ne sait jamais. Hein, parce qu'il faut savoir que quand même, il y a 64 cases, c'est ça.
Ouais. Hein,
et donc, ça en fait des possibilités. Alors, on a, tout à l'heure, je plaisantais sur le déplacement des pièces. Alors, en gros, dites-moi un peu comment ça se déplace. Un cheval, par exemple.
Un cavalier, ça se déplace en L.
En L,
c'est-à-dire qu'on fait deux cases devant et une case sur le côté.
Ouais, en L. Alors, c'est pour ça que je trouvais ça un peu bizarre pour ces chevaux. Les tours, bon, elles sont...
Horizontal, vertical.
Les fous, ils sont fous. Ouais. Donc ils vont en diagonale, c'est bien ça. Ils connaissent pas la ligne droite. Le fou ne connaît pas la ligne droite, il a bien raison. Et puis la reine, en fait, c'est une tour et un fou.
C'est ça.
Hein, c'est ça. Le roi aussi, mais lui, le pauvre, il est restreint sur une seule case.
C'est ça.
Enfin, il se déplace que d'une seule case.
Une case sur, de tous les côtés.
Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut bien le défendre, son roi, n'est-ce pas, Sylvain?
Ah oui. Souvent, c'est la reine qui le défend.
Ah oui, c'est souvent la reine parce qu'elle est tellement plus mobile que lui en se déplaçant de la même façon. Bon, si vous voulez, viens, on va faire une toute petite pause musicale. Alors là, cette fois-ci, c'est Sylvia qui va avoir choisi un petit morceau dans notre discographie. Hein. Alors on va écouter ça, puis après on revient, on reparle un peu avec vous. Le lancer du CD.
La Camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez me poursuit d'un zèle imbécile. Alors cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un codicille. Trempe dans l'encre bleue du golfe du Lion, trempe ta plume, oh mon vieux tabellion, et de ta plus belle écriture. Note ce qu'il faudrait qu'il advint de mon corps lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord que sur un seul point, la rupture. Quand mon âme aura pris son vol à l'horizon vers celle de Gavroche et de Mimi Pinson, celle des titis, des grisettes, que vers le sol natal mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris Méditerranée, terminus en gare de Sept. Mon caveau de famille, hélas, n'est pas tout neuf. Vulgairement parlant, il est plein comme un œuf. Et d'ici que quelqu'un en sorte, il risque de se faire tard et je ne peux dire à ces braves gens, poussez-vous donc un peu, place aux jeunes en quelque sorte.
Alors je suppose que tout le monde a bien reconnu un de nos grands chanteurs, disons, traditionnels de la langue française. Alors d'abord, Sylvia, merci d'avoir choisi Brassens, même si ce n'était peut-être pas la chanson que vous vouliez écouter. C'est celle de la supplique pour être enterré sur la plage de Sète. Alors, vous étiez en Bulgarie, vous le connaissiez déjà, Brassens ?
Non, pas du tout. Je l'ai connu ici. C'est grâce à ces chansons que j'ai appris le français.
Ah, vous avez appris le français. Ça fait, sans indiscrétion, ça fait longtemps que vous êtes arrivé dans notre pays ?
Oui, ça fait à peu près 15 ans que je suis en France.
15 ans de, donc, et vous habitez donc entre Montpellier et Nîmes, c'est ça ?
Là, en ce moment, j'habite à Nîmes.
Nîmes, enfin, pour jouer aux échecs, vous venez à Montpellier.
Oui, bien sûr.
Vous avez le TER, non, c'est ça, ça va...
Il y a le TGV, hein.
Ah, oui, oui, c'est
plus rapide.
Oui, ça va très, très vite, il faut une demi-heure.
20 minutes.
20 minutes, donc c'est super, c'est super. Donc vous pouvez bien. Enfin, vous êtes intéressé à notre langue, parce que est-ce que le bulgare a des intonations qui pourraient ressembler un peu à notre langue ou pas du tout ?
Non, pas du tout. Ah. C'est une langue qui est très proche du russe.
Voilà, proche du russe. Alors là, ce sont des grandes nations d'échecs, hein, je ne me trompe pas. Les Russes, ouais. On en a cité quelques-uns, ont toujours été des grands champions d'échecs. Les Bulgares aussi ?
Il y a eu pas mal de champions, oui.
Voilà. Et puis des naturalisés états-uniens aussi, hein, qui étaient d'origine russe, qui se sont retrouvés aux États-Unis, que représentaient les États-Unis, par exemple. Alors, il y a aussi, pendant les années où l'Union soviétique existait encore, les échecs, c'était aussi très important au niveau politique. C'est-à-dire qu'il y avait des grandes... on représentait l'Union soviétique. Alors, il y a eu le célèbre match contre Bobby Fischer et... comment il s'appelait le russe ? Je ne me rappelle plus, excusez-moi. C'était à Reykjavik, en Islande.
Boris Spassky.
Merci, merci beaucoup. Heureusement que vous êtes là. Sans ça, j'allais dire une bêtise. Alors, donc, c'était mondialement... Alors, c'est ce qui a fait décoller au niveau, je dirais, du grand public, les échecs. Ce match, parce qu'il était suivi par tout le monde, même les gens qui ne connaissaient rien aux échecs, mais on voulait voir... l'Union soviétique contre les États-Unis d'Amérique. C'était extraordinaire, ce match. C'était en 71, je crois.
72.
Ouais, voilà. Je suis pas si mauvais que ça. Heureusement que j'ai des spécialistes autour de moi. Alors d'abord, merci d'abord d'être venu jusqu'à notre studio de Divergence FM. J'espère que cette petite émission, ça vous a plu.
Super.
Ça vous a plu ? Alors, c'est moins compliqué que de jouer aux échecs quand même. Enfin, c'est pas facile d'avoir un casque et un micro devant la bouche. Hein.
C'est pas simple.
Un casque sur les oreilles et un micro devant la bouche. En tout cas, vous êtes très bien sorti et je vous remercie encore une fois d'être venu. On va maintenant, si vous voulez bien, donner quelques petits résultats très rapides. Et puis, ça sera la fin de l'émission. Hein.
Quelques résultats de nos surdoués valeureux de l'aglo multivitaminé.
Alors c'est juste pour vous dire que si vous voulez faire de l'escrime, eh ben, notre président Fontana, qui était venu nous voir du MUC Escrime, il organise une porte ouverte. Alors allez sur le site du MUC Escrime, vous saurez tout ça et c'est un sport très intéressant. L'escrime, ça, je reviens avec Sylvia, l'escrime c'est pas mal aussi par rapport aux échecs. Hein, ça, y a des, au niveau de la capacité à bien se concentrer, hein, les escrimeurs sont des gens qui se concentrent beaucoup, qui vont très vite. Aussi.
Il doit avoir des corrélations.
Ouais, je pense. On m'a dit aussi que les boxeurs. Il paraît qu'il y a un sport qui s'appelle le chess boxing.
Ouais. Alors, 2 minutes de boxe, 2 minutes d'échecs.
Bon, alors des fois, je suppose que vous avez un adversaire, vous envoie lui mettre un coup sur la veine, mais on ne fait pas. On n'a pas droit. Non, on n'est pas droit. Alors, pour terminer sa mission, je voudrais quand même saluer l'équipe de waterpolo de Montpellier, championne de France. Après nos filles qui ont été championnes de basket, nous avons maintenant nos garçons qui sont champions de France de waterpolo. Alors, bravo. La semaine prochaine, je vais recevoir quelqu'un qui veut jouer au basket. Le basket, c'est aussi intéressant pour les échiquiers. Ils sont 5, mais il faut quand même beaucoup réfléchir. Hein. Alors, un petit clin d'œil au San Antonio Spurs. Ils sont en train de gagner la finale pour le moment. Enfin, c'est pas fini la finale hein, de NBA. Ils mènent 3-1 devant les Miami Heat. Et nous saurons la semaine prochaine nos résultats puisque le prochain match, c'est dimanche. Allez, au revoir et à bientôt. Et merci encore à l'échec club de Montpellier d'être venu.
Merci à vous.
Merci à vous.
À bientôt.
Bonsoir.
Yeah! 30 minutes chrono, l'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono.